Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Comment se reconstruire après un attentat? Peut-on reprendre son travail comme si de rien n'était? Voit-on son couple? Vit-on l'amour? Voit-on la vie comme avant? Certainement pas. Et si l'art pouvait aider? Toutes ces questions, le lecteur se les pose en lisant le très beau roman de notre invité. J'avais toujours le sentiment de réparer quelque chose d'essentiel. Étrangement, les tableaux étaient les seules choses qui me semblaient réversibles, écrit ainsi Sarah Manigne, qui nous place dans la peau et dans les émotions d'Alice, une restauratrice de tableaux baroques, qui tente également de se restaurer elle-même. Après l'atelier, il y a 2 ans, quitté Madrid et son 2e roman, il est paru au Mercure de France et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Sarah Manigne.
Bonjour.
Le livre est écrit à la première personne et il démarre tambour battant avec des phrases assez courtes, une écriture très fiévreuse qui emmène le lecteur au cœur même des attentats de la gare d'Atocha à Madrid le 11 mars 2004. On est le matin, on est aux heures de pointe au moment où chacun va travailler. Votre narratrice s'appelle Alice, elle était dans l'un des trains. Comment est-ce que vous vous êtes mise dans la peau d'une victime du terrorisme?
Ce qui me travaillait depuis longtemps, c'était d'écrire sur les attentats de Paris, puisque je pense que comme beaucoup de Français et beaucoup de Parisiens, on les a vécus de très près et que j'avais, je pense, comme souvent en écrit, pour mieux s'approprier des choses et essayer de les faire siennes. Et en même temps, je n'y arrivais pas parce que je pense que c'est extrêmement difficile parfois d'écrire sur ce qui est très proche. Et donc, voilà, je butais un peu là-dessus. Et par ailleurs, j'ai vécu à Madrid. Donc, je suis arrivée à Madrid en 2005, après les attentats. Mais c'était encore une histoire très, évidemment, présente pour les Madrilènes et les Espagnols. Et donc, il m'a semblé plus facile, finalement, de décaler cette histoire-là, tout en y trouvant, évidemment, quelque chose de commun et d'universel.
Mais vous avez lu la presse, vous avez rencontré des victimes d'attentats?
Non, alors j'ai choisi de pas du tout. Ça m'a questionné un moment, et finalement j'ai choisi de pas le faire. J'ai lu, évidemment, la presse, j'ai vu des reportages, voilà, des documentaires. El País avait fait en 2004 ce que Le Monde a fait en 2015, c'est-à-dire un portrait de chacune des victimes, et il y en a 191 à Madrid. Voilà, ça j'avais.
Et ça vous a aidé pour construire ce personnage d'Alice, ou en tout cas pour la mettre en situation?
Après, je pense qu'on se l'approprie. En tout cas, ça m'a aidé à me dire que chacun avait une vie très différente. Je pense qu'au contraire, ça m'a libérée d'être sûre qu'il y avait un profil type. C'est-à-dire, moi, mon idée, c'était que chacun peut être confronté à ça. Et justement, en fait, de me projeter en y mettant du mien et puis de ce dont j'avais envie, puisque chacun est différent, mais chacun avait vécu la même chose.
Alors Alice ressent une douleur dans le dos, hein, dans la nuque, donc il y a une douleur physique évidemment, mais ce qui frappe le plus, c'est pas tellement la douleur physique, hein, c'est surtout la stupeur, la sidération, hein, sur le moment, elle est dans une sorte d'état second en fait.
Oui, alors ça c'est ce qu'on lit souvent dans les... Enfin voilà, c'est ce qu'on... Et puis c'est ce qu'on... À Madrid, on a des images des gens qui courent dans la station. Enfin, tous ces attentats sont malheureusement très présents puisqu'on a beaucoup d'images, donc en fait on est assez nous-mêmes sidérés et stupéfiés. Donc voilà, et c'est des ressentis de beaucoup de...
Oui, parce victimes. Que là, en fait, elle dit « je », puisque, encore une fois, vous utilisez la première personne, et en même temps, on a l'impression qu'Alice est un peu spectatrice d'elle-même. Quoi. C'est très étonnant, justement, ce « je », si je veux dire « j-e-u » entre le « je » et oui, cette dimension « je regarde moi-même ce qui est en train de m'arriver et je comprends pas très bien le monde dans lequel je suis ».
Alors, Alice a pour particularité d'être comme ça avant l'attentat. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même un peu en décalage et qui je pense, a choisi son travail aussi pour être en décalage. Voilà, qui a un rapport aux choses qui n'est pas toujours très à l'aise dans le concret. Et donc, cet événement-là, elle le vit aussi par ce biais qu'a toujours été sa perception des choses et qui va vraisemblablement l'obliger à changer. Mais jusqu'ici, c'est un peu son mode de relation à la vie, en fait.
Voilà, et son travail, précisément, c'est qu'elle est conservatrice, restauratrice de tableaux. Son lieu de travail, c'est pas n'importe lequel, puisque c'est le prestigieux musée du Prado à Madrid. Et on comprend là qu'on retrouve Sarah Manigne un peu de l'atelier, votre premier roman. Lorsqu'on découvre le livre face à une écrivaine qui écrit sur la peinture. Pourquoi la peinture tient-elle une telle place dans votre œuvre littéraire?
Alors ça, je serais bien incapable de vous l'expliquer. C'est juste que ça tient une grande place dans ma vie et dans ma source d'inspiration.
Vous êtes peintre vous-même ?
Non, absolument pas. Mon seul moyen d'expression, ça a toujours été que les mots et que l'écriture. Il y a que là-dedans que j'arrive à peu près à faire quelque chose. Mais voilà, les tableaux me donnent des émotions comme les livres, mais qui vraiment sont essentielles pour moi. Et donc voilà, j'avais envie une nouvelle fois, alors pas de la même place, puisque vraiment dans l'atelier, c'était le questionnement sur la création. Or là, Alice c'est pas une artiste et elle en revendique pas du tout ce caractère-là. Mais voilà, c'est vrai que c'est un rapport au monde. Ça m'intéresse chez les personnages, sûrement parce que ça c'est mon rapport au monde. Mais ça m'intéresse chez les personnages que l'art les aide à vivre en fait.
Voilà, à vivre et peut-être à se réparer, puisqu'elle est restauratrice de tableaux. Elle leur donne donc une nouvelle jeunesse en quelque sorte. Elle leur fait retrouver du lustre et de la beauté. Et sa spécialité, ce sont les portraits de saintes peintes par un peintre sévillan du XVIIe siècle qui s'appelle Francisco de Zurbarán. Pourquoi Zurbarán ?
Alors en France, ça étonne beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de gens qui commencent à me dire qu'ils ont découvert Zurbarán.
C'est mon cas.
Voilà. En Espagne, c'est pas. Enfin, je crois vraiment pas être une révolutionnaire à ce compte-là, parce qu'en Espagne, c'est vraiment presque l'équivalent de Velázquez. Ils se connaissaient. Velázquez a fait venir Zurbarán à Madrid à la cour. Donc voilà, c'est un peintre, je dirais, assez vraiment classique en Espagne, qu'on découvre donc assez vite quand on vit en Espagne. Et la partie que les Espagnols, je pense, connaissent le mieux, et les Français qui connaissent Zurbarán, c'est beaucoup, beaucoup les moines, avec ses frocs blancs, enfin, ses silhouettes très... Et c'était ce que je connaissais, que j'appréciais, mais sans plus. Et puis, voilà, il y a eu les saintes, et là, il y a eu une espèce de, je sais pas, d'amour. Ça m'a parlé comme rarement.
Ouais, alors, décrivez-nous justement le premier tableau que l'on évoque vraiment en longueur dans votre livre, l'allégorie de la charité. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller sur leur site internet préféré et à découvrir justement cette toile. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce qui vous fascine dans ce tableau, Sarah Manin ?
Alors déjà, c'est un tableau que j'ai jamais vu en vrai, et je ne sais pas si un jour j'aurai ce privilège. Il est dans les réserves du musée du Prado. Donc c'est pareil, au début je m'étais dit peut-être j'allais les contacter. Bon, finalement j'ai avancé comme ça, mais enfin, ça c'est un appel. Si quelqu'un m'entend, évidemment j'adorerais voir ce tableau. En fait, c'est une jeune femme, donc c'est pas une sainte pour le coup, et c'est une jeune femme qui tient un cœur enflammé, qui est le symbole de la charité. Et ce cœur enflammé, je l'ai découvert à peu près la même période que les attentats de Paris. Et voilà, et je sais pas, il y a eu une espèce d'association et de consolation dans ce cœur.
Il y a le cœur, mais il y a aussi le costume.
Alors hein, voilà, après
les personnages, vous insistez beaucoup sur les couleurs, mais aussi sur le drapé, sur la matière. Ça correspond évidemment au travail de restauration du personnage. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier ?
Alors après, voilà, les saintes de Zurbarán et cette allégorie de la charité aussi sont, moi je trouve absolument uniques, parce que soudain elles sont vraiment parées. Voilà, on dit parfois en costume de bal ou pour aller au théâtre. On pense même que peut-être c'était des portraits de jeunes femmes existantes et que voilà, et qui le faisait vivre comme ça. Et elles sont vraiment oui, il y a tout un travail sur les couleurs, sur les plis, les drapés qui sont extrêmement particulière, je trouve, sans être non plus, il est pas très bon pour le mouvement. Zurbarán, elles sont toujours très figées, c'est très statique, mais c'est une espèce de moi je trouve d'évocation très très moderne. Il y a quelque chose de moderne.
Et donc, Sarah Manin, on a posé les deux bases majeures de votre roman, donc l'attentat, donc la victime d'attentat, et puis la peinture, donc la restauratrice de tableaux, qui va donc vivre justement cette violence dans sa vie, violence de l'attentat, et en même temps donc faire son travail de conservatrice, restauratrice de tableaux. Et on a un peu l'impression que la réparation du tableau va très vite se superposer avec la réparation d'Alice pour elle-même, la réparation personnelle d'Alice. En fait, Alice, elle ressent une sorte de culpabilité des survivants, quoi. C'est un petit peu ça.
Oui, alors elle ressent deux choses. Elle ressent d'abord des troubles post-traumatiques, très clairement, comme la majorité des victimes d'attentats.
Et voilà, comment se déplacer comme avant, comment exactement travailler comme
ça,
avant, comment
réalité
vivre, comment aimer comme avant aussi. Voilà, sa vie personnelle, dans sa vie intime, c'est un tremblement de terre.
Les bruits sont plus possibles. Enfin, il y a énormément de choses qui deviennent extrêmement compliquées. Voilà, donc ça, c'est un véritable traumatisme. Et après, évidemment, il y a la culpabilité, je pense, comme tous les survivants, à savoir, bon, pourquoi elle, pourquoi pas les autres. Et en plus, voilà, on va découvrir qu'elle a quand même une vision de ce qui s'est passé à ce moment-là, dont elle n'est pas très sûre, et où elle se pose elle-même la question de savoir si, comme on se pose souvent, c'est-à-dire si on a, nous, on se la pose, si on agirait bien, mais elle, elle a vraiment cette, elle a vécu ça, et il lui faut se demander aussi si, dans ces circonstances-là, elle a été ce qu'elle aurait dû être.
Et donc, elle se pose effectivement beaucoup de questions sur son comportement, sur elle-même, sur sa vie et aussi sur la peinture. Son regard, son rapport à la peinture va aussi changer. Ainsi, quand elle examine un autre tableau de Sourbaran, Sainte-Apolline, nous sommes page 97 de votre roman.
Sainte-Apolline était si petite, si fragile. Elle avait des airs de poupée, de muñeca. Et j'aurais voulu la prendre dans mes bras pour la bercer et la consoler. Mais où étaient les nuits sans sommeil qui étaient les miennes? Où étaient les cris qui continuaient de me hanter? Je me réveillais chaque nuit en sueur, tremblante. Les bruits, les images me revenaient sans cesse. Je sentais la colère gronder en moi. De qui se moquait-on? Pour la première fois de ma vie, j'aurais voulu des hurlements, des pleurs et de la morve à la place de ces visages soumis et de ces toilettes merveilleuses. J'aurais voulu voir le sang que provoquent les blessures, la souffrance qui dévaste les âmes. Moi qui avais autrefois eu en horreur les images de martyrs torturés, éviscérés, écartelés, parfois même bouillis ou posés sur un grill comme Philippe II le Mystique les aimait tant. Moi qui trouvais burlesque ces scènes abominables qui obligent presque à détourner le regard, songeant que tout était exagéré comme ces séquences de torture au cinéma devant lesquelles on ferme les yeux et pour lesquelles il faut même se boucher les oreilles, le son sans l'image n'en devenant que plus insupportable. Il me semblait sans intérêt de montrer ce que l'on ne pouvait supporter de voir. Ce n'était que morbidité et fascination pour l'horreur des supplices. Mais ces saintes, ces femmes parées, presque fardées, qui ne souffraient pas, qui acceptaient extatiques la violence des bourreaux, je les avais aimées et j'avais désormais envie de lacérer leur image, leur visage si lisse et si tendre. On était sainte parce que la souffrance était intériorisée, cachée. L'apparence se devait de rester agréable et les souffrances occultées.
Et quelques lignes plus loin, Sarah Manin, voici les toutes dernières lignes du chapitre.
Désormais, j'avais soif de supplicier, de brûler vif, de langues coupées, de jambes brisées, de membres détachés et semés aux quatre vents. Et je me demandais à quoi pouvait bien servir d'offrir en modèle des êtres aussi dénués de vie et de sentiments. Quel mérite y avait-il à affronter le mal si tout était désincarné? S'il n'y avait pas de souffrance et pas de peur. Dans l'horreur qui nous avait saisi le 11 mars, nous avions hurlé, pleuré, tremblé, supplié et gémi. Aucun d'entre nous n'avait contemplé stoïque les corps sans vie et démembrés. Aucun d'entre nous n'avait subi extatique les peines qui lui étaient infligées. Pourtant certains avaient été héroïques, d'autant plus héroïques que les larmes baignaient leurs joues, que la terreur faisait s'accélérer les battements de leur cœur, presque jusqu'à exploser, et que leur âme savait déjà que ce spectacle-là, on ne s'en remet jamais. Je jetai un dernier regard à Apolline, patronne des dentistes. Ce n'était pas d'une rage de dents que je souffrais. Elle ne pouvait rien pour moi. Je quittai la pièce et le musée. Depuis Atocha, j'avais le sentiment que personne ne pouvait rien pour moi, que personne ne pourrait plus jamais rien pour moi.
Sarah Manin, est-ce que notre rapport à la peinture et à l'art en général est à ce point façonné par les circonstances, par notre expérience personnelle et intime ?
Moi, je le crois tout à fait. Je crois qu'on cherche dans l'art, enfin, ou alors on tombe dessus, enfin, peu importe, mais parce que je pense que moi, évidemment, comme d'autres, on sait qu'on cherche des choses. Après, j'espère qu'il y a des gens qui ne cherchent pas et qui soudain trouvent par hasard et ça leur parle. Moi, je pense, oui, qu'on voit les œuvres d'art absolument différemment selon la période où on les vit, elles peuvent nous parler si on parle de chefs-d'œuvre, elles nous parlent à tous les âges et à tous les moments de la vie, mais on n'y voit pas du tout la même chose et je pense que c'est souvent ce qu'on recherche, c'est-à-dire une façon de mettre des mots sur des choses qu'on n'arrive pas à nommer, d'avoir des sentiments sur des choses qu'on comprend pas, enfin.
Et donc, ça veut dire qu'on peut regarder la même œuvre à quelques jours d'intervalle de façon complètement différente.
Oui, Oui, mais notamment, voilà, c'était aussi la question, comme dans l'atelier, je me questionnais sur, alors bon là, pour quand on est artiste et ce qu'on représente, mais là, je pense que Alice se pose les mêmes questions, à savoir aussi, est-ce que l'art doit, voilà, moi, Zurbaran me parle, mais en même temps, est-ce qu'il me parlerait si j'avais souffert plus et si j'avais besoin d'y trouver autre chose, je ne sais pas, j'ai une espèce de d'amour assez éthéré et assez voilà, idéalisé pour ces saintes, mais je me suis quand même posé la question de on sait bien qu'on n'aime pas tous les mêmes choses et qu'on n'est pas ému par les mêmes choses.
Est-ce que vous pensez, Sarah Maline, que l'art peut avoir un pouvoir consolateur, thaumaturge pour un observateur d'un tableau?
Oui. Moi, je pense que, enfin, alors pour ceux qui le font, c'est une évidence. C'est-à-dire, je pense qu'on écrit, on peint, on voilà pour alors consoler, je sais pas, mais pour vivre. Enfin, comme disait, je crois que c'est Nietzsche. Alors après, chacun son interprétation, mais qui disait pour ne pas mourir de la vérité. Mais je crois que oui, ça a ce pouvoir-là quand même si c'est un petit pouvoir.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Sarah Maligne, quitter Madrid, c'est le titre de votre roman. Et il faut comprendre ces deux mots au premier et au deuxième degré. Quitter Madrid, c'est quitter le souvenir de l'attentat, le traumatisme qui vient avec, on en a parlé. C'est aussi quitter physiquement la ville où la vie d'Alice a basculé. Et ça non plus, c'est pas évident. Je redoutais, dit-elle, de quitter ce pays dans lequel j'avais un statut. Ici, j'étais une victime. Vous pouvez nous expliquer ces derniers mots, j'étais une victime.
Alors je crois, si on lit ces derniers temps les articles justement sur le procès de l'attentat de Charlie, je trouve qu'il y a des choses très très fortes qui sont dites justement sur ceux qui veulent du statut de victime, ceux qui n'en veulent pas, ce que je peux comprendre. Après moi l'idée aussi d'écrire c'était vraiment pour aussi essayer d'aborder toutes ces personnes qui sont impactées sans être physiquement touchées par ces événements. Et je crois que c'est quand même plus d'avoir d'être reconnu que de ne pas du tout de considérer que la vie reprend, qu'il ne s'est rien passé et que vous devez continuer comme avant, alors que plus rien n'est possible comme avant. Donc voilà, je pense que Alice a peur. Elle est dans une histoire collective et très vite, quand on sort d'un pays, on le sait bien, on est très très autocentré. L'histoire existe très peu en fait chez les autres.
Madrid, c'est aussi la ville où Alice a rencontré Angel, avec qui elle s'est installée. Pourquoi est-ce que vous avez fait du personnage d'Angel un immigré colombien?
Alors ça, c'est totalement le mystère de l'écriture. C'était pas du tout mon idée au départ, mais j'avais l'idée qu'il serait chef cuisinier, puisque c'était aussi une pratique des gestes que je trouvais assez proche finalement. Ils ont beaucoup de points communs, voilà. Et de fil en aiguille, il était immigré à Madrid. Voilà, et ça s'est posé que j'ai rencontré, enfin voilà, que les cuisines de l'Espagne sont remplies de Sud-Américains, et que je trouvais intéressant aussi que soudain il y ait des résonances. Voilà, on oublie un peu vite en Europe qu'il y a des pays qui ont des histoires comme ça, mais au quotidien.
Cuisinier, peintre, écrivain, ce sont des métiers qui appartiennent à la même catégorie, des métiers de geste, des métiers de création. On écrit un roman comme on prépare un repas ou comme on peint un tableau?
Oui, enfin pour moi, après chacun a sa façon, j'imagine, de faire les choses. Pour moi, c'est vraiment vraiment de l'artisanat au même titre, c'est-à-dire qu'on se met à une table et puis on a envie de transmettre des choses qu'on a accumulées parfois sans le savoir. Et j'ai l'impression oui, c'est assez fascinant quand on voit les cuisiniers ou quand on voit les peintres. Ou voilà, c'est assez fascinant de voir comment ils sont dans cette étape-là de création.
Mais alors justement, il y a quelque chose qui est très important pour un peintre, c'est quand il se rend compte qu'il a terminé son tableau, qu'il faut qu'il arrête, c'est qu'il mette la dernière touche. Quand est-ce que vous, Sarah Maline, vous avez compris que la dernière touche du roman était faites et qu'il fallait que vous arrêtiez d'écrire?
Pour tout dire, j'aurais bien remis sur à l'ouvrage. Je suis pas absolument convaincue d'être toujours sûre. C'est que le deuxième roman et je ne sais pas. D'ailleurs, le premier me servait aussi à explorer ces questions-là, mais je suis pas tout à fait si sûre que ça de savoir moi à quel moment je suis sûre de mes phrases, à quel moment voilà. Après, ben on est épaulé par des gens, on a un éditeur, on a une éditrice, donc ça c'est un peu aussi précieux pour avoir un retour.
Merci beaucoup Sarah Maline. Quitter Madrid, publié au Mercure de France, et on va se quitter avec une chanson que fredonne Angel, une chanson colombienne, une chanson ensoleillée, festive, hein, qu'il fredonne effectivement dans ce roman. Ça s'appelle Adios les Pidos. Ça donne en français?
Adios les Pidos. Ah, en français, je demande à Dieu, enfin à Dieu, je lui demande, mais voilà, il voilà. Demande beaucoup de choses à Dieu.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más.
A Dios le pido. Juan Estan VMDN sur RFI.
Café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Fanny Blechner, Muriel Mahalouf, Amélie Beaucourt et Alain Pilot, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François.
Cette semaine avec vous Alain, humour et chanson.
Oui, car saviez-vous que les pionniers du stand-up, Pierre Dac et Francis Blanche, faisaient aussi dans la chanson?
Eh bien non, je l'ignorais. Picasso, doublement à l'honneur en ce moment à Paris, à travers deux expositions simultanées. D'abord en musique, Fanny.
Oui, même s'il prétendait ne pas en écouter, la musique est omniprésente chez l'artiste, qu'il s'agisse pour lui de représenter des scènes de fête, de collectionner des instruments, ou encore de participer à des ballets, une exposition très dense à découvrir en ce moment à la Philharmonie à Paris.
Mais aussi en bande dessinée, Amélie.
Oui, c'est une dimension de son œuvre qu'on connaît très mal, et pourtant Picasso est aimait la bande dessinée et en a même un petit peu fait. On en parlera à l'occasion d'une exposition au musée Picasso à Paris.
Once Upon a Dream, c'est le titre de l'exposition de Youssef Nabil, un titre qui a évidemment un petit parfum de cinéma.
Bien sûr, on pense à Once Upon a Time in America, le film mythique de Sergio Leone, mais Youssef Nabil a remplacé Time, le temps, par Dream, le rêve, et c'est peut-être une Égypte rêvée qu'il déploie dans ses photos et vidéos. L'Égypte de son enfance, d'un temps où on flirtait et s'embrassait dans les films, comme il le montre dans cette superbe vidéo où il met bout à bout beaucoup des séquences de baisers du temps de l'âge d'or du cinéma égyptien dans les années 60-70. Les photos de Youssef Nabil ont aussi un air du passé. L'artiste, qui ne jure que par le noir et blanc, a recours à une vieille technique au Moyen-Orient de coloriage des tirages. Il commence par photographier ses amis au début des années 90, réalise des autoportraits en djellaba, la robe masculine traditionnelle égyptienne.
J'ai refusé d'utiliser un film couleur parce que pour moi c'était un autre médium. C'est pour moi le noir et blanc, ça gardait un petit peu le côté magique, le côté cinématographique des films anciens qui m'ont inspiré. Et puis j'ai décidé d'apprendre comment colorer les photos noir et blanc à l'époque en utilisant le même technique, le plus ancien technique de peinture de photos sur papier que j'ai cherché à apprendre en fait auprès des derniers retoucheurs du studio de portraits au Caire et Alexandrie. Et comme ça, j'ai gardé toujours le côté magique qui m'intéressait en fait dans la photo. J'ai pas voulu faire des photos en couleur avec un film couleur. J'ai voulu que ça ressemble à ces films qui m'ont inspiré à faire ma photo.
Des films où trône la danseuse orientale, interprétée le plus souvent dans les photos de Youssef Nabil par la chanteuse Natacha Atlas, et que Youssef Nabil photographie avec la même technique en coloriant des images en noir et blanc, des images qui sont aussi des souvenirs d'enfance.
Dans les films anciens égyptiens sur la télé ou dans tous les mariages presque, il y a toujours la danseuse du ventre qui vient à certains moments, toujours très tard. Et je me souviens, j'attendais toujours l'arrivée de la danseuse du ventre dans chaque mariage avec ma famille. J'étais un enfant, je dormais parce qu'elle arrive à 2h du matin et on me réveille pour regarder cette sublime femme qui arrive, elle est très 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 belle.
Visiblement, Alain est pas loin de prendre des cours de danse du ventre.
J'adorerais.
Voilà, en tout cas, Youssef Nabil, Muriel ne prend pas seulement des modèles égyptiens ou arabes dans ses photos.
Non, l'artiste qui vit à présent entre Paris et New York présente effectivement une série de photos de grandes stars du cinéma. De Catherine Deneuve à Fanny Ardant, elles sont toutes voilées. Madone ou musulmane, des images qui interrogent en tout cas Youssef Nabil.
Dans les années 80, j'ai grandi en écoutant beaucoup de débats sur le voile. Comment les femmes d'un coup commençaient à couvrir leurs cheveux et qui couvre plus et qui est chrétienne et qui est musulmane. C'était pour moi un signe de séparation dans la société entre hommes et femmes, entre chrétiens et musulmans. Et j'étais pas d'accord avec tout ça dans ma tête. Le port du voile, d'abord c'est un choix, mais aussi un tenue méditerranéen qui était porté d'une manière très normale par des femmes en Grèce, par des femmes en Italie, en France, dans les peintures de la Renaissance, même en Égypte, chrétienne et musulmane dans la Haute Égypte. Et j'ai voulu photographier des icônes du cinéma que j'aime, comme Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Anouk Aimée, Charlotte Rampling, Claudia Cardinale, etc., qui portaient tenue méditerranéen, et on voit d'ailleurs leurs cheveux en bas un petit peu de leurs épaules, mais quand même ça a rappelé un peu, puisque je suis égyptien, les gens m'ont parlé que comment vous avez pu mettre le voile sur Catherine Deneuve. Là, je dis, Catherine Deneuve, elle n'a pas mis le voile. Catherine Deneuve, elle a joué un rôle, c'est une très grande actrice, très intelligente, qui a joué plein de rôles, et avec moi elle a accepté de jouer un rôle.
Beaucoup d'autoportraits aussi dans les photos de Youssef Nabil, dont un très étonnant, on le voit endormi sous le printemps de Botticelli, une œuvre dont une reproduction a trôné au-dessus de son lit toute son enfance, il raconte.
J'ai vécu avec ça pendant plusieurs années, en dormant sous cette image, c'était au-dessus de mon lit. Pour moi, c'était... Peut-être j'ai eu, en tant qu'enfant, une autre interprétation de l'image. Je voyais des femmes sublimes, presque nues, dans une sorte de paradis. Et puis, bien sûr, plus tard, j'ai compris que c'est Botticelli. J'ai compris le nom de la peinture. Alors, j'ai décidé d'écrire au musée L'Uffizi à Florence pour aller dormir encore une fois, mais cette fois-ci sous la vraie Primavera di Botticelli. Et ils m'ont reçu un lundi matin quand le musée est fermé. Il y avait une quinzaine de sécurité autour de moi, et vous voyez, c'est qui cet arabe qui vient avec un djellaba au musée dormir sous Botticelli. Et j'ai fait l'autoportrait et j'ai réussi à dormir encore une fois sous le vrai Botticelli cette fois-ci.
Une très belle photo,
très belle
en tout cas.
Aussi, oui. Oui.
Once Upon a Dream, il était une fois un rêve, celui de Youssef Nabil, et une exposition qui révèle des œuvres qui allient sensibilité et sensualité, une époque bénie de l'enfance de l'artiste égyptien où l'amour, la danse, la joie s'affichaient dans le cinéma et dans le quotidien du pays du Nil.
Une exposition à découvrir donc au Palazzo Grassi à Venise jusqu'au 20 mars. Merci Muriel. L'ouverture du spectacle 39°5. La température monte, hein, visiblement, dans le studio. Spectacle enregistré au Théâtre des Trois Baudets à Paris. Théâtre fondé, Alain, faut-il le rappeler, par Jacques Canetti.
Et aujourd'hui, c'est sa fille, Françoise Canetti, qui gère d'une main de maître ce fameux lieu où se produisent toujours de nombreux artistes plus ou moins connus. Françoise qui a décidé de publier les sketchs de Pierre Dac et Francis Blanche, 12 précisément, issus de deux spectacles captés en 1950 et 1951.
J'ai tenu à ce que ce coffret CD ressorte aujourd'hui parce que c'est une langue française que nous ne connaissons plus. En fait, Pierre Dac et Francis Blanche sont les inventeurs de la langue française de l'humour au XXe siècle.
C'est vendredi en 8 que la Société des Trompes d'Eustache de Seine-et-Oise donnera dans les salons du Crasped Palace et sous la présidence effective de Monsieur le Général commandant la place des Ternes son grand concert annuel au cours duquel il interprétera, entre autres, le deuxième poème en la mineure de Paul Diété Chausson et l'ouverture du compte en banque de Philippe de Rothschild. L'entrée sera gratuite, mais on payera 20 francs pour sortir.
Un extrait d'édition spéciale, hein, c'est le titre. Pierre Dac, c'est aussi, Alain, une voix aussi populaire pour autre chose que d'humour.
Ben oui, c'est lui qui devient en 1943 l'un des Français qui parle au français depuis Radio Londres, diffusé par la France Libre sur la BBC à destination de la France occupée.
Ici, Londres. Les Français parlent aux Français.
Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.
Radio Paris-Mont et la voix donc de Pierre Dac à la radio.
Et raffinement jamais qu'il le 13 mai, Pierre Dac 1938 crée le journal satirique L'Os à Moelle, rappelle le site judaïsme.sdv.fr, présenté comme l'organe officiel des loufoques jusqu'au 31 mai 1940, date de l'entrée des Allemands dans la capitale française. Pierre Dac va réaliser 4 grandes pages diffusées tous les vendredis à 400 000 exemplaires dans les familles, les cours de lycée et les casernes, un record absolu dans l'histoire de la presse d'avant-guerre. Une aventure qui débute par un éditorial désormais historique sobrement intitulé « Pourquoi je crée un journal ?» Dac, un adepte de la parodie en chanson, aussi ce que nous confirme Françoise Canetti.
La modernité, disons, de Pierre Dac, dans la chanson, c'est d'utiliser ce que beaucoup de gens maintenant font, ce que Gérard fait, c'est d'utiliser des chansons très connues et de les réadapter avec des paroles qui ont une autre signification. Et ça, c'est vraiment le premier à le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il fait avec un talent fou. On parlait des gars de la marine qui devient les gars de la vermine. Voilà, et donc c'est vraiment le premier à faire ça.
On fait le serment d'obéir totalement, quels que soient ses caprices, aux ordres du Führer.
Aux ordres du Führer.
La croix gammée sur l'œil, on montre avec orgueil qu'on est un grand champion dans la course à l'abjection. Voilà les gars de la vermine, chevaliers de la bassesse, voilà les Waffen-SS. Voyez comme ils sont fiers mine, c'est dans le genre crapuleux ce qui se fait de mieux.
Pierre Dac, les gars de la vermine.
Ou quand le célèbre chansonnier revisite les gars de la marine, et que dire de...
Mais que dire de Francis Blanche? Oui, c'est la question que j'allais vous poser alors. Et que dire de Francis Blanche?
Qu'il fut également l'auteur de blagues téléphoniques hilarantes, diffusées régulièrement à la radio dans les années 60, c'est ce que souligne jesuismort.com. On lui doit également quelques poèmes, paroles de chansons déjantées et musique classique triturée comme la truite de Schubert par les frères Jacques. Dans les années 40 et 50, il fait partie de la troupe Les Branquignols de Robert Derry, avec qui il joue dans Ah, les belles bacchantes en 1953.
Ouais.
Auteur de plus de 400 chansons pour les autres donc, mais pour lui également.
De bon matin, me suis levé, c'était dimanche. À la carriole, j'ai attelé la jument blanche. Pour m'en aller au marché dans le chef-lieu du comté, paraît qu'il y avait des généraux à vendre. mais le soleil écrasait tant la route blanche. La jument s'arrêtait si souvent sous les branches que lorsque je fus rendu, on ne m'avait pas attendu et tout léger, Nero était vendu.
Général à vendre, Francis Blanche au milieu de ses sketchs publiés par Françoise Canetti.
Une chanson, Françoise.
Psychose, psychose toujours, tu m'intéresses. Bien sûr, il y a une espèce de béguine qui est assez amusante. Voilà, où Pierre Dac et Francis Blanche chantent en se trémoussant de joie. Enfin, vous allez écouter.
Mais direz-vous, au fond, qu'est-ce que c'est que la psychose? En vérité, la psychose, c'est une drôle de chose. C'est un truc purement cérébral qui vous ratatine le moral et qui vous déminéralise les amygdales.
Un passage de la psychose tiré du spectacle Sans issue.
Et le mot de la fin à Pierre Dac.
Enfin, et en ce qui me concerne personnellement, les dernières paroles que je souhaite être en mesure de prononcer avant de rendre le dernier soupir sont « Mission accomplie, terminée ». Voilà. Et comme l'a si bien dit l'éminent philosophe du Konos de Thessalonique, le plus fidèle disciple de Mendicus d'Athènes, quand la pensée s'endort, la parole est d'argile. En conclusion, assez pensé pour aujourd'hui.
Pensée en vrac, Pierre Dac et Francis Blanche, leurs sketchs inoxydables, on l'a compris, enregistrés au Théâtre des Frabaudets. Il est sorti ce CD chez Production Canetti dans la collection Les Introuvables. Et vous l'avez trouvé, Alain. Et on vous en remercie.
Et bon. On peut se trémousser.
Naturellement. Alors, si on vous dit Pablo Picasso, je suis prêt à parier que vous pensez tout de suite à ses toiles et à ses illustrations. En revanche, il y a deux aspects de son travail beaucoup moins bien connus qu'on va donc découvrir dans ce Café Gourmand, comme promis avec vous, Fanny et Amélie. Le premier, c'est la musique, celle qui imprègne son œuvre et à laquelle la Philharmonie de Paris consacre une exposition jusqu'au 3 janvier. L'autre, c'est donc la bande dessinée, un art qu'il a un tout petit peu pratiqué, mais qu'il a grandement inspiré. Amélie, c'est au musée Picasso à Paris que ça se passe, c'est jusqu'au 3 janvier. Vous êtes donc allé là-bas et faire un petit tour.
Oui, et pour commencer cette excursion entre Picasso et le 9e art, on entre dans la bibliothèque du grand peintre espagnol. Le musée a aménagé de grandes étagères sur lesquelles on retrouve les albums de bande dessinée que collectionnait l'artiste. Et oui, parce qu'il en lisait beaucoup, selon Vincent Bernière, le commissaire de l'exposition.
On a su que Picasso aimait la bande dessinée parce que lorsqu'il était jeune homme, dans les années 1900, à Paris, la collectionneuse et amie et critique de Picasso, Gertrude Stein, lui faisait la lecture de bande dessinée nord-américaine dont Picasso et Fernande étaient friands. Alors, une autre chose qu'on sait, c'est que Picasso a lu de la bande dessinée, comme toute personne née à la fin du 19e siècle. Alors, sa particularité à lui, c'est qu'il a lu de la bande dessinée au début de la bande dessinée. Et il a conservé des exemplaires de journaux imprimés qui publiaient de la bande dessinée, des journaux espagnols, des journaux français, dans ses bibliothèques. Picasso avait des maisons nombreuses, et dans chacune de ces maisons, il avait des bibliothèques fournies, parce qu'il avait l'habitude de ne jamais rien jeter. Donc là, c'est un travail qu'on a fait avec Johan Poplar, le co-commissaire de l'exposition, c'est qu'on a été recherché dans la bibliothèque de Picasso. Par exemple, on a découvert qu'il lisait Spirou, par exemple. Donc Picasso lisait Spirou. C'est un scoop.
Ah oui, c'est un sacré scoop, effectivement. Alors, est-ce que ces lectures ont inspiré son travail? Amélie, est-ce qu'il s'est lui-même essayé à la BD?
Ah, tout à fait. Alors, on savait déjà que Picasso, quand il était adolescent, fabriquait de petites bandes dessinées pour ses sœurs. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a continué à en faire à l'âge adulte.
Ce qu'il a surtout beaucoup fait, c'est de la caricature. Mais on ne savait pas trop jusqu'à présent. Il y avait bien, dans la critique de bande dessinée ou chez les amateurs, quelques références, notamment concernant Songe et mensonge de Franco, qui est une œuvre très connue de lui et qui pourrait s'apparenter à de la bande dessinée. C'est une suite de vignettes muettes qui raconte un rêve horrible que ferait Franco. Il en a fait une qui est non titrée, qui est une suite de 6 vignettes. Bon, il y en a que 5 qui sont parvenues jusqu'à nous, mais dans lesquelles Picasso raconte qu'avec un de ses amis peintres catalans, il se rend à Paris pour vendre ses tableaux à Durand-Ruel. Donc ça, c'est des petites bandes dessinées avec un dessin et une légende.
Ouais, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Picasso, lui, en tant que personnage, en tant qu'artiste, il a beaucoup inspiré les scénaristes et les dessinateurs de BD.
Oui, une autre salle de l'exposition est donc consacrée à la représentation de Picasso dans la BD. Certains en ont fait des biographies plutôt sérieuses, d'autres s'en sont moqués, comme Gottlieb ou Reiser. Mais celui qui lui a sûrement rendu le plus beau des hommages, c'est le grand dessinateur américain Art Spiegelman.
Ah oui, le dessinateur de Maus, hein, une grande bande dessinée des années 80 en noir et blanc qui parle de l'extermination des Juifs en Europe, avec des souris, hein, représentées qui représente les Juifs et les Allemands, représentés par Deschamps.
Exactement. Et bien, Art Bigelman, il a et beaucoup dessiné Picasso dans les années 70, notamment à l'époque où la BD était peut-être un peu sous-estimée. Et son but, c'était de montrer que les planches ont tout autant de place dans un musée que les toiles du peintre espagnol.
Il s'est beaucoup intéressé à Picasso en tant que figure artistique. Il le représente, il évoque aussi la lecture par Gertrude Stein des bandes dessinées du début du XXe siècle dans une histoire qui s'appelle Midget Detective Story, traduit en français par Les aventures de Trouduc dans l'écho des savanes, repris ensuite par Casterman sous un titre moins amusant, mais dans lesquels il figure notamment Pablo Picasso, Guernica. Alors, il a également fait une petite page de bande dessinée qui est une critique d'exposition en bande dessinée qui a été publiée aux États-Unis, au moment où se donnait l'exposition High and Low au MoMA, où il redessine Gertrude Stein, où il comprend pas pourquoi de tant de créateurs de bandes dessinées majeures n'ont pas les honneurs des musées ou n'ont pas les honneurs des expositions. Donc on rétablit en quelque sorte cette injustice dénoncée par Art Spiegelman en mettant, si on peut dire, Pablo Picasso et les auteurs de bandes dessinées au même niveau au sein d'une institution et d'un musée majeur comme le Musée National Picasso Paris.
Alors évidemment, la grande question que pose aussi cette exposition, c'est celle-ci. Imaginons un instant que Picasso ait choisi de faire carrière dans la BD plutôt que dans la peinture. À quoi ça aurait bien pu ressembler?
Ça, c'est la grande question. Picasso, artistiquement, a toujours peint la même toile, peu ou prou. Il a eu plusieurs périodes, mais un Picasso, ça se reconnaît. Donc je pense pas que Picasso aurait fait de la ligne claire, aurait fait de la bande dessinée classique. Je pense qu'il aurait fait du Picasso. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans Histoire classique de Mac Jacobs, qui est une bande dessinée d'avant-garde avant l'heure. Il aurait sans doute fait du Picasso avec ses fameuses femmes iconiques de profil avec un troisième œil. Enfin, à mon avis, il aurait fait ça, mais pas sûr. Peut-être qu'il aimait aussi le classicisme de la BD. Ça se voit dans certaines de ses illustrations qui sont présentées au musée. On voit que c'est un bon dessinateur qui sait être académique, qui sait être classique. De toute façon, Picasso sait tout faire. Donc peut-être qu'il aurait fait de la bande dessinée classique. Malheureusement, on ne le saura pas. Il a dit lui-même, la seule chose que je regrette dans ma vie, c'est de ne pas avoir fait de bande dessinée. C'est lors d'une interview à François en 73, un peu de temps avant sa mort, qu'il a dit ça. Ça aurait été un super auteur de BD, je suis sûr.
Oui, on a raté effectivement sans doute un super dessinateur, ouais, en tout cas peut-être même scénariste aussi. Et peut-être qu'on a raté aussi un artiste d'un autre genre, hein, Fanny, puisque vous le disiez tout à l'heure, la Philharmonie s'intéresse également en ce moment même à une facette méconnue, à une autre facette méconnue du grand Pablo.
Ah oui, parce que qui dit Philharmonie dit vous en doutiez sans doute musique.
Oui, je m'en doutais quand même, Fanny. Effectivement, donc Picasso était aussi amateur de musique?
Enfin, pas officiellement, nous explique Cécile Godefroy, commissaire de l'exposition.
Nous sommes partis donc pour ce projet d'une légende et d'un constat. La légende d'un Picasso qui n'aimait pas la musique, comme il l'aurait lui-même déclaré. Et puis d'autre part un constat, celui d'un imaginaire musical omniprésent dans l'œuvre de Picasso dès les premières années.
Les premières années que Picasso passe en Espagne. Avant 1903, le peintre vit durant ses deux premières décennies à Malaga, à Barcelone et à Madrid. Là, il va presque sans s'en apercevoir former son oreille en fréquentant différents lieux de vie.
On voit bien que les musiques qu'affectionnait Picasso, en tout cas celles qui transparaissent dans ses tableaux, dans ses dessins de jeunesse notamment, ce sont des musiques populaires, des musiques de cabaret, des musiques de rue, des chansons populaires, de la musique de corrida, la musique gitane, la musique de flamenco, autant de musiques qui pouvaient s'entendre très facilement à Malaga ou à Barcelone, et puis ensuite quand il arrive à Paris, à Montmartre, dans les rues de Montmartre ou dans les cafés-concerts de la place de Clichy.
Car à Paris aussi, la musique est bien présente.
De la musique, d'accord, Picasso, on écoute donc un petit peu partout, Fanny. Mais finalement, c'est assez commun. En quoi est-ce que c'est visible dans son œuvre?
Eh bien, dans ses années de jeunesse, la musique, c'est d'abord un sujet d'étude à proprement parler.
Picasso, en choisissant et en élisant la musique comme sujet, il s'inscrit dans une certaine tradition de représentation qui nous renvoie à l'Antiquité, mais aussi à toute l'histoire de la grande peinture italienne, flamande et surtout, bien sûr, espagnole et française.
Ce sont donc des musiciens qui sont représentés, mais aussi des scènes dans des cafés-concerts ou encore la figure de l'arlequin, figure inspirée d'un poème d'Apollinaire que fréquentait Picasso. Un arlequin, disais-je, tout en couleurs, jouant par exemple de la guitare.
Parce que l'artiste aimait particulièrement les instruments à cordes.
Et il va en accumuler un grand nombre durant sa période cubiste, alors qu'il dépiote, désolé pour l'expression, certains instruments pour les reformer avec de la tôle, des fils de fer, de la couleur et réinventer leur forme, Cécile Godefroy.
Oui, alors on pourrait dire qu'il les a collectés plus que collectionnés, parce que finalement ce ne sont pas des instruments de grande valeur, ce sont des instruments qu'il a choisis vraisemblablement pour leur matérialité, pour les matériaux, leur forme évidemment, et leur caractère évocateur. Et on voit, et on le sait d'après la photographie, que les instruments donc sont présents très tôt dans ces ateliers, dès 1910. Apparaissent les premiers instruments, et notamment la mandoline, puis ensuite les guitares et les violons, et puis tout un corpus d'instruments assez divers et variés, composés d'instruments à cordes pour beaucoup, d'instruments d'origine européenne, mais aussi des instruments du monde, donc tambour fang, harpe cora, entre autres.
Et ces instruments, vous avez donc pu les voir dans l'exposition, Fanny. Il y a aussi d'autres objets, hein, je crois, qui ont retenu votre attention.
Oui, effectivement, ce sont d'incroyables costumes de scène du ballet Parade, le manager, le prestidigitateur chinois ou encore le cheval, mais aussi des décors. Picasso expérimente alors le concept d'œuvre d'art totale.
Sur une sollicitation de Serge Diaghilev et de Jean Cocteau, Picasso va collaborer donc pour le monde de la scène à partir de 1917 et participe à la création du ballet Parade. Il répond en quelque sorte à l'ingéniosité d'Éric Satie, à cette partition qui est ponctuée de bruits du quotidien, de klaxons, de cliquetis, de machines à écrire, de coups de feu, et qui est une sorte de réponse à cet intérêt pour le quotidien que Picasso cultive depuis l'époque cubiste.
Alors on l'entend, les liens entre Picasso et la musique, ils sont très nombreux. Fanny, il y a une thématique à laquelle vous avez été particulièrement sensible.
Oui, Jean-François, il s'agit des sonorités dans la langue de Picasso, qui écrivait de nombreux poèmes. Écoutez celui-ci, lu par l'acteur Hippolyte Girardot.
Fume de feu à volonté dans le ciel et lui plante des milliers de banderilles. Si l'encre se cache pour gratter à loisir sa gale et ne montre pas son museau entre les franges de ciseaux en mouvement, ce n'est pas qu'ait peur de monter l'escalier à la lumière du papier le petit palmier.
Sautons à présent quelques années pour atterrir dans le dernier espace de l'exposition.
Et il est assez incroyable, ce sont des tableaux de grand format représentant des aubades, des scènes de séduction. Un homme joue pour une femme alanguie. L'artiste se représente sous les traits d'un joueur de guitare ou de flûte. Les couleurs sont très vives, les gestes urgents, la mort semble rôder.
Jusqu'à cette figure du musicien Matador de 1972, soit l'un des derniers tableaux peints par Picasso. Et donc dans cette salle, on voit bien combien cette figure du musicien est importante pour Picasso, et une figure à laquelle il s'identifie sans doute dès les premières années, mais avec encore plus de force à la toute fin de sa vie, quand il s'agit de revisiter en quelque sorte son corpus et d'exprimer tant qu'il le peut encore le génie de sa créativité.
Bon, ça fait beaucoup de choses à voir, toute cette exposition très riche, hein, visiblement.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, Jean-François, si vous y allez, je vous conseille vraiment d'avoir du temps devant vous. D'autant plus qu'un audio guide est fourni, il permet d'écouter des œuvres musicales tout au long.
Nous avons donc sélectionné plus de 35 enregistrements d'époque. Des enregistrements qui nous renvoient à l'environnement immédiat de Picasso, au travers de ses amitiés, de ses collaborations, des dessins qu'il a pu croquer, par exemple, à l'Olympia, à Paris. Je pense notamment à ce dessin d'Yvette Guilbert, qui était une vedette de l'Olympia au tournant du XXe siècle. Donc ce sont ces musiques auxquelles Picasso avait accès et qu'il appréciait, qui sont à entendre en parallèle, bien sûr, de ce parcours d'exposition.
L'exposition sur les musiques de Picasso, c'est donc à la Philharmonie de Paris jusqu'au 3 janvier 2021, et celle sur la bande dessinée, c'est également jusqu'au 3 janvier, cette fois au musée Picasso, toujours à Paris. Ainsi se termine cette émission. Merci à Fanny, merci également à Muriel, Amélie et Alain. Dans un instant, le journal, on se retrouve lundi avec un grand monsieur de la chanson française, Pierre Perret, à l'occasion du lancement de sa tournée d'adieux, des adieux provisoires, s'empresse-t-il d'ajouter. À lundi, bon week-end à tous, et vous m'en direz des nouvelles.